One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
SLP, salut les PD, quatrième émission du mois de juin, tout le monde a remis son casque, parce qu'on était tous en pleine discussion là, salut Gislain, salut Ariane,
salut.
Et rebonjour Anne Yvonne.
Bonjour, c'est un plaisir de vous revoir chaque semaine.
Bah, écoutez, c'est un plaisir partagé.
Elle le fait bien. Hein
ouais, elle le fait bien.
On va se régaler.
Quatrième et dernière émission, je ne sais pas si on sera aussi fun, parce que là, c'est là vraiment la question de fond, question économique. On va essayer de rester fun quand même.
Tu veux dire qu'avant, ce n'était pas des questions de fond qu'on a fait ?
Si, mais c'est plus, on va dire, notre fond de commerce habituel, et on sait être fun sur ces questions
tu
graves et sérieuses.
Commerce, tu n'as pas honte.
Non, je n'ai pas honte, parce que justement, on va parler... commerce, enfin plus précisément économie et système capitaliste. Alors, est-ce un modèle unique ou pas ? On aimerait bien vous entendre sur ce sujet.
On dépasse un tout petit peu la notion de sexualité, mais voyons.
Ah oui, oui, mais
oui,
nous,
on a changé de semaine, très
ouvert. Et voilà, ça nous intéresse aussi de parler de ce genre de choses, de thématiques. On l'a déjà fait à SLP et en même temps, ça peut nous emmener aussi assez loin. Premier son qu'on va écouter. C'est un extrait de petite vidéo qu'on trouve sur le site des économistes atterrés. Est-ce que vous connaissez les économistes atterrés ?
Absolument pas.
Absolument pas ?
Allons-y,
écoutons. On va vous faire découvrir quelque chose alors.
Je vais me régaler.
Oui, on écoute.
Alors, oui, sur la diversité des courants économiques qui s'expriment aujourd'hui dans le débat public, alors évidemment, on a tendance à dire qu'il y a d'un côté les néolibéraux et de l'autre côté les atterrés. C'est pas totalement faux, mais c'est peut-être un peu simplificateur. En gros, quand même, c'est vrai que les néolibéraux, je sais pas comment tu définirais, toi, le courant néolibéral de façon synthétique, je dirais que c'est les gens qui croient que, de toute façon, il vaut mieux les mécanismes du marché que des décisions politiques, en toutes circonstances.
Oui, en tout cas que des décisions politiques directes, parce que les néolibéraux sont très interventionnistes. Mais ils sont très interventionnistes pour faire advenir le marché. Et donc les néolibéraux ont très bien compris que le marché tout seul ne fonctionne pas, qu'il a besoin d'être tenu par des règles, par tout un certain nombre d'organisations très concrètes qui le font fonctionner plus ou moins bien. Donc les néolibéraux refusent en quelque sorte l'intervention directe de l'État du côté de l'offre ou de la demande, mais par contre sont des activistes de l'État pour faire fonctionner le marché, le faire exister même.
Oui, pour le néolibéralisme, sa doctrine, ça consiste à organiser par l'État, par les politiques publiques, organiser la domination du marché. C'est pas un marché qui s'organise spontanément, c'est pas un marché qui tombe du ciel, c'est un marché qui est institué par l'État, par les politiques publiques, mais qui ensuite, dont les forces doivent ensuite diriger l'économie et la société.
Voilà. Et donc quand on dit marché, en fait, c'est pas des forces obscures. Quand on dit marché, c'est quoi ? Ce sont des intérêts privés qui s'expriment sous forme monétaire, sous forme d'achat-vente. Et donc en particulier, quand on dit le marché en général, ça paraît un peu vide et creux et trop général, justement. Il faut bien penser à quoi on se réfère si on parle des marchés des biens et services ou des marchés financiers. Mais à chaque fois, en réalité, ce sont des intérêts privés, des intérêts globaux, financiers, qui s'expriment sous la forme d'achat et de vente de biens et services ou de produits financiers.
Alors, bon, par opposition donc aux néolibéraux qui pensent que c'est le marché institué par les pouvoirs publics, mais le marché qui doit déterminer la marge de l'économie et donc de la société, hein, c'est ce qu'on peut appeler une société de marché. Eh bien, donc, les économistes critiques, bon, les atterrés en France, pensent, eux, que les marchés ne peuvent pas servir de boussole au développement économique, et en particulier les marchés financiers, qui ont comme caractéristique d'être aveugles, moutonniers et largement irrationnels, et d'entraîner des successions de booms, de cracks, d'expansion et irrationnelles, et ensuite de récessions et d'effondrements. Donc, les marchés financiers ne sont pas du tout, et plus ils sont dérégulés, plus ils sont libres de fonctionner livrés eux-mêmes, et plus ils sont irrationnels, et plus ils sont chaotiques. Donc cette dérégulation financière qui a institué les marchés financiers comme la boussole, comme le guide du développement économique, aboutit aujourd'hui à la catastrophe que nous connaissons et à la crise très durable dans laquelle nous sommes entrés. Donc pour nous, et on est tous d'accord là-dessus, il faut retirer aux marchés financiers ce rôle prééminent dans l'orientation de l'économie et restituer des politiques publiques, des politiques démocratiques qui décident de façon démocratique quelles doivent être les priorités du développement économique.
Griselidis, elle a rien écrit sur l'économie parce qu'elle est plus fun quand
elle
parle.
Ouais, c'est clair, il était un peu long ton son. Hein.
Bah, peut-être qu'elle est plus fun, mais voilà. Alors, vous connaissiez pas Yvonne, les économistes atterrés ?
Je connaissais pas la terminologie.
La terminologie. Ouais.
Mais je partage quand même leur analyse. Hein.
Alors, en fait, ils ont été signataires en septembre 2010 d'un manifeste qu'on a là. Manifeste d'économistes atterrés. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils dénoncent un certain nombre de choses sur le fonctionnement capitalistique d'aujourd'hui. Hein. Ils ont écrit ça juste après la première crise financière de 2008.
C'est très marrant d'entendre dit première, pardon.
Oui, première, effectivement, pas la première, mais la dernière.
C'est tout, juste
la dernière crise.
Ça devient insupportable.
Non, parce qu'il y en a eu une deuxième depuis, voilà.
Il y en a eu pas mal avant
aussi, on est d'accord. Alors, ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils dénoncent, ils diagnostiquent, mais ils proposent aussi derrière. Simplement, jusqu'à aujourd'hui, finalement, et le fait que vous ne les connaissiez pas, c'est un indice de ça, ils n'ont pas forcément tellement voix au chapitre au niveau des médias. Voilà. Ce qu'on entend le plus souvent, c'est des doctrines néolibérales qui ne disent pas leur nom ou néo-keynésiennes.
Elles ne disent pas leur nom puisqu'elles font comme si c'était les seules existantes.
Exactement.
C'est présenté comme une voie unique et toute autre solution, c'est irresponsable.
Je rappelle que François Hollande vient d'être élu président de la République et que justement, il était sur une autre posture.
Voilà.
Et c'est vrai qu'on entend beaucoup plus souvent les différents signataires des économistes atterrés depuis quelques semaines. On les entend beaucoup plus dans les médias.
Donc, je trouve que c'est un assez joli terme, économiste atterré.
Il y a de quoi. Est-ce que vous aviez vu ce film sur la crise financière, ce film américain qui s'appelle Inside Job aussi
Non.
Alors, ça c'est pareil, c'est des choses... Alors, ce qui est étonnant, c'est que de façon très, très synthétique, autant ce manifeste que ce film sur la crise financière décrit extrêmement bien les pourquoi et les comment de la crise. Et en même temps, aujourd'hui, alors reste à voir ce qui va se passer en France dans les semaines, les mois et les années qui viennent, mais est-ce qu'à un moment, justement, le pouvoir politique va réussir à reprendre le dessus sur le pouvoir financier pour qu'on puisse changer la donne, effectivement, pour la plupart d'entre nous ?
Ce qui peut accompagner ces changements que je crois profondément nécessaires, c'est qu'effectivement, mine de rien, qu'on le veuille ou non, les Américains ont besoin d'une Europe qui tourne.
Mmh.
Encore. Et qu'il faut qu'on s'en saisisse. Or, une Europe qui régresse, c'est une Europe qui n'achète plus de produits. Et donc, ça met en péril les autres économies du monde, puisque les économies en développement ou développées des pays d'Asie du Sud-Est, par exemple, qui sont des pays développés, vendent sur nos marchés. Donc, si on ne peut plus acheter, l'économie s'effondre, du reste du monde s'effondre. L'Europe est le premier marché mondial, il ne faut jamais l'oublier. Donc, on n'a pas la chance aujourd'hui de pouvoir faire comme les Américains, tourner la planche à billets à l'infini, puisque c'est le dollar, c'est le billet vert qui est, qui est depuis Bretton Woods, l'étalon mondial. Et l'euro ne l'a pas atteint. Mais la situation économique... Moi, je suis assez contente. Je trouve que Hollande s'en est bien sorti à Washington et à Chicago. C'est pas simple, mais le mot croissance est de nouveau sur les, dans l'espace sonore public, alors qu'il avait complètement disparu. Voilà, croissance, relance est de nouveau dans l'espace public sonore. Ce sont des mots qui ne sont plus, qu'on a le droit de prononcer sans être considéré comme has-been et néolibéral.
Oui, c'est-à-dire ce qui était le cas il n'y a pas très très longtemps encore.
Il n'y a pas très longtemps, quoi. On était complètement.
Responsable, c'était surtout. Ouais.
Voilà, et on avait. Mais il ne faut pas oublier non plus que, mine de rien, le monde de la finance dont on parle aujourd'hui, il va de pair avec le monde de l'Internet. C'est la vitesse de la vitesse des échanges sur des bourses qui a fait plonger le monde dans une économie de non pas de la production ou de la consommation mais dans une économie de la marchandisation d'un truc complètement virtuel qui se passe dans des tuyaux informatiques à plus que très haut débit à l'échelle du monde.
Il y a une captation
par les mathématiques.
Il y a tout ce qu'il a permis, c'est-à-dire la
volonté d'enrichissement puisque en effet la sphère financière représente quelque chose comme 17 fois une masse théorique monétaire 17 fois supérieure à l'économie réelle.
Et
c'est possible parce que les mathématiques ont permis d'inventer des systèmes financiers, une manière de vendre et d'acheter qui découpe les monnaies, qui découpe les économies et qui découpe les valeurs des choses en micro-machins qu'on peut réinjecter au fil de l'eau sans que personne.
Alors ce qui a permis ça, c'est aussi à un moment la déréglementation financière, bancaire, etc. qui remonte, on va dire, au début des années 80. Comment vous positionnez aujourd'hui? Oui, mais on va dire un véritable tournant, c'est quand même les administrations Reagan, Thatcher en Europe. Ouais. Et du coup, aujourd'hui...
Le choix fait par l'Angleterre de considérer que la richesse anglaise était la City.
Oui.
C'est un choix énorme.
Alors, énorme. Est-ce que le politique, d'après vous, et le Parti Socialiste entre autres, puisqu'aujourd'hui se retrouve éventuellement au pouvoir très, très prochainement...
J'espère très bientôt, en stabilité, le gouvernement.
Est-ce que véritablement, il y aura des décisions politiques qui seront prises pour mener de véritables politiques économiques? Parce que finalement, la question, elle est là.
D'investissement et de croissance. Et ça ne peut pas être uniquement de redonner du pouvoir d'achat. C'est aussi de redonner du pouvoir d'achat, mais aussi une politique de réinvestissement.
Oui, je pense que c'est plus fondamental que ça.
Oui, c'est plus fondamental que ça. C'est pour ça que le SMIC, ça sera un coup de pouce. Ça ne sera pas comme en 81, où on avait à peine percuté le premier choc pétrolier et le deuxième, et où on était encore dans une économie de la croissance et de la consommation, et où la France était quand même quelque part propriétaire de ses propres industries. Mais elles étaient en souffrance, puisque c'était l'industrie lourde, c'était l'industrie du charbon, c'était de l'acier qu'on a complètement perdu. Je rappelle quand même que la droite française a vendu avec beaucoup de talent ArcelorMittal à Monsieur Mittal, et en ayant par ailleurs auparavant vendu l'aluminium français, c'est-à-dire qui s'appelait je ne sais plus comment, ça commençait par P, on a vendu aux Canadiens pour une bouchée de pain. Pour une bouchée de pain. Donc au motif que de toute façon ça ferait rentrer de la monnaie et que la monnaie crée la valeur. Non, c'est la valeur qui crée la monnaie, c'est pas la monnaie qui crée la valeur. Mais on est quand même un petit peu loin de saluer les PD, non ?
Mais non, parce que le regard sur le monde un petit peu décalé, c'est quand même... puis c'est ce qu'on a dit un petit peu la semaine dernière avec Testo Junkie, on a quand même on essaye d'avoir un regard transversal sur les choses et pour qu'en effet chacun ait plus d'espace de liberté et se sente en capacité d'assumer sa propre responsabilité sur sa petite vie, c'est important d'avoir un regard élargi sur le monde qui nous entoure.
Voilà. Non, mais c'est de toute façon, les questions économiques sont les questions politiques, c'est la même chose. D'un autre côté, les sociétés démocratiques développées comme les nôtres, il y a une défiance par rapport aux politiques qui est considérable. Parfois, moi, qui ai un engagement politique et qui ambitionne également d'autres engagements nationaux, mais qui a également un métier, une activité professionnelle, j'ai parfois du mal à comprendre pourquoi une telle défiance. Et on va aboutir à quoi ? La droite, ce qu'elle vient de faire, par exemple, ce qu'elle a fait, c'est de distancier complètement le politique du réel. Par exemple, quand ils ont fait les conseillers territoriaux, en supprimant non pas les conseils généraux, c'est-à-dire les administrations des départements et les administrations des régions, mais en les maintenant, mais en créant le conseiller territorial, qui grosso modo, on perd 20% d'élus, mais qui ont pu la main sur des administrations qui vivent en parfaite autonomie. Vous avez au niveau des grands corps de l'État, par exemple, aujourd'hui en France, la droite a fait quelque chose d'incroyable que les journalistes n'ont absolument pas vu ou pas voulu voir, c'est qu'on fusionne les grands corps de l'État. Mais en les fusionnant, on y met les ingénieurs TP, les ingénieurs des grands corps, et on fait un grand machin dans lequel tout le monde pense que les petits vont gagner, alors qu'en fait, c'est simplement rendre invisibles les petits pour donner le pouvoir aux grands, en les rendant invisibles. Mais... Et ça, c'est un problème, c'est une question de fond, parce que cette défiance, mais c'est peut-être ça une démocratie, elle avance non pas par saut, mais par... transgression, récession, quoi. Et là, je pense qu'on a atteint un domaine d'invisibilité de l'argent et de l'administration qui est très dangereuse. Il faut que le politique reprenne du pouvoir. Et je crois que Hollande l'a dit.
J'allais vous dire, effectivement, vous parliez de... vous posiez la question de la défiance par rapport aux politiques. Moi, je pense que les questions cruciales, elles sont là. Alors, on a parlé de questions sociétales sur les précédentes émissions. On conclut notre rendez-vous avec vous par cette quatrième émission sur la dimension plus capitalistique, économique. Parce que je pense qu'il y a un véritable enjeu du politique aujourd'hui sur ces questions-là. On a avancé, pas complètement, mais ces 20-30 dernières années sur des questions sociétales. Il y a encore du boulot, c'est clair. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une véritable défiance par rapport aux politiques et les enjeux de la prise ou reprise du pouvoir du politique sur le financier, l'économique. C'est un enjeu, pour moi, c'est principal enjeu.
C'est une attente hyper forte.
Et c'est une attente très, très forte.
Le désintérêt pour la chose politique, parce qu'il y a des hommes politiques de premier plan qui se sont déclarés impuissants face au rouage de l'économie. Et ça... Enfin, je comprends que ça fasse une sorte de désaveu, quoi.
Pas tellement par rapport au pouvoir du politique ou au rouage de l'économie, c'est au fait que le monde était en train de changer. Or, on ne l'a pas voulu le voir. On n'a pas voulu le voir qu'il y avait des pays émergents qui avaient émergé. Ils n'étaient plus émergents du tout, ils étaient émergés. Et que la question sociétale chez eux, du rapport entre le pauvre et le riche à l'intérieur de leur propre pays, n'était pas réglée. Mais pour autant, ces pays commençaient à devenir sinon riches, au moins aisés. Mmh. On n'a pas voulu le voir. Et on n'a pas voulu voir que le monde changeait. Et on a parlé de mondialisation en pensant qu'on allait continuer à en être les maîtres. Et voilà, on s'est fait dépasser par ça. Donc maintenant, il faut reprendre la main.
Voilà.
C'est difficile. C'est difficile et les clés ne sont pas... si c'était si simple, il n'y aurait pas besoin ni de politique ni de démocratie.
Alors on va aller visiter un autre pays. Pour ça, on va écouter un son sur l'Islande, si tu peux nous le retrouver, Tao.
Avez-vous entendu parler de l'Islande récemment? Non? Pourquoi? Ben, si quelqu'un croit qu'il n'y a pas de censure actuellement, qu'il nous dise pourquoi on a tout su au sujet de ce qui se passe en Égypte, en Syrie et en Libye, et pourquoi les journaux n'ont absolument rien dit sur ce qui se passe en Islande, eh bien, écoutez bien ceci. En Islande, le peuple a fait démissionner un gouvernement au complet. Les principales banques ont été nationalisées et il a été décidé de ne pas payer la dette contractée par ces dernières auprès des banques de Grande-Bretagne et de Hollande, dette générée par leur mauvaise politique financière. Une assemblée populaire vient d'être créée pour réécrire la Constitution, et tout cela pacifiquement. Toute une révolution contre le pouvoir qui a conduit à cette crise. Voilà pourquoi rien n'a été publié. Brièvement, voici l'histoire des faits. 2008, la principale banque du pays est nationalisée. La monnaie s'effondre, la bourse suspend son activité, le pays est en banqueroute. 2009, les protestations citoyennes contre le Parlement font que des élections anticipées sont convoquées. Elles provoquent la démission du premier ministre et en bloquent de tout le gouvernement. La situation économique désastreuse du pays persiste. Par le biais d'une loi, il est proposé à la Grande-Bretagne et à la Hollande le remboursement de la dette par les paiements de 3 500 millions d'euros. Un montant qui doit être payé mensuellement par toutes les familles islandaises pendant les 15 prochaines années à un taux d'intérêt de 5 %. 2010, le peuple descend à nouveau dans la rue et demande que la loi soit soumise à référendum. En janvier 2010, le président refuse de ratifier cette loi et annonce qu'il y aura une consultation populaire. En mars, le référendum a lieu et le non au paiement de la dette remporte 93 % des voix. Pendant ce temps, le gouvernement a entamé une investigation pour régler juridiquement la responsabilité de la crise. Les détentions de plusieurs banquiers et cadres supérieurs commencent. Là, je parle de prison, là. Interpol lance une enquête et tous les banquiers impliqués quittent le pays. C'est comme des rats qui quittent le navire, là. Dans ce contexte de crise, une assemblée est élue pour rédiger une nouvelle constitution qui reprend les leçons apprises de la crise et qui se substitue à l'actuel, qui est une copie, dans le fond, de la Constitution danoise. Pour ce faire, on a recours directement au peuple souverain. On élit 25 citoyens sans filiation politique parmi les 522 qui se sont présentés aux candidatures. Pour cela, il faut être majeur et recueillir le soutien de 30 personnes. Assez simple. L'Assemblée constituante commence ses travaux en février 2011 afin de présenter, en partant des avis collectés dans les diverses assemblées qui ont eu lieu dans tout le pays, un projet de grande charte. Elle doit être approuvée par l'actuel Parlement ainsi que par celui qui sera constitué après les prochaines élections législatives. Voici en bref l'histoire de la révolution islandaise. Démission en bloc de tout un gouvernement. Nationalisation de la banque. Référendum pour que le peuple puisse se prononcer sur des décisions économiques fondamentales. Emprisonnement des responsables de la crise. Réécriture de la Constitution par les citoyens. Nous a-t-on parlé de ça dans les médias européens, canadiens, américains, japonais, dans le monde, partout? Est-ce que les médias de masse ont même touché au sujet? Le peuple islandais a su donner une leçon à tout le monde entier, en affrontant le système et en donnant une leçon de démocratie au reste du monde.
Alors, est-ce que vous aviez entendu parler du modèle islandais récent, Anne Yvonne Le Dain?
Non.
Non.
Voilà, je vous l'avoue très simplement, pas dans le détail en tout cas. Je me souviens d'une crise épouvantable, mais je ne me souvenais pas qu'ils l'avaient résolu comme ça. Je ne suis pas encore pas sûr que ce soit complètement résolu quand même.
Ils viennent de rembourser, en fait, ils ont eu un prêt du FMI et ils viennent de le rembourser, faire leur premier remboursement de façon anticipée.
Du FMI, mais ils n'ont pas remboursé la dette en direction de la Grande-Bretagne.
Ils ont décidé qu'ils ne le feraient pas. Ils ont demandé aux gens.
J'ai entendu et je me souvenais de ça, mais je trouve que c'est intéressant comme démarche. C'est intéressant, mais je m'avance parce que je ne sais pas ce que va faire le gouvernement de Héros, mais je pense qu'il faudrait aussi que les Français redeviennent propriétaires de leurs dettes. Comme, vous savez, le Japon, par exemple, la dette de l'État japonais, elle est colossale par rapport à la dette elle est monstrueuse. Elle est supérieure à la dette de l'État français. Sauf qu'elle est propriétaire des Japonais. Vous prenez la Malaisie, l'Indonésie, des pays dont on ne parle jamais, qui sont en pleine croissance, et que je n'appellerai pas les petits dragons asiatiques, parce que c'est très méprisant comme formule. Hein. Mais ce sont des pays dans lesquels il y a un investissement qui est très fort. C'est un peu des monocultures aussi, hein, mais dans lesquels le peuple est propriétaire de la dette. Est propriétaire de sa protection sociale et propriétaire de la dette. Aujourd'hui, quand on voit l'épargne des Français, on pourrait être propriétaire de notre dette. Alors, ça contrebalance et ça contrebat la philosophie comme quoi l'économie est mondiale. Non, moi, je pense que là, il y a un chemin à trouver. C'est un chemin de crête. Hein. C'est pas un chemin facile parce que la France n'est pas l'Islande, comme la France n'est pas ni le Canada ni la Hollande. Oui. Le Canada et la Hollande, c'est 17, 19, 20 millions de personnes. Nous, on est 65 millions. Les Allemands sont 95. Les Anglais sont 80. Quand je dis 80, ils sont peut-être même à plus de 100. Donc on est la taille de nos populations et de nos économies ne sont pas du même ordre. Hein.
La taille et l'implication de ces économies dans la mondialisation.
L'implication dans la mondialisation ne sont pas les mêmes.
Voilà, tout à fait.
Et 10 ans de gouvernement de droite n'a rien arrangé. D'un autre côté, c'est quand même aussi la gauche, faut le dire, hein, qui avait commencé aussi à mettre la dette française sur les marchés mondiaux. Mais parce que c'était une autre époque.
Oui.
Comme on parlait tout à l'heure de la sexualité, c'était une autre époque. Donc, et après, ça n'a pas été géré d'une manière saine, mais je rappelle que sous le gouvernement Jospin, les caisses de la Sécu étaient pleines. On parlait de la cagnotte. Il y avait 30 millions d'euros, on ne savait pas la question était de savoir si on la distribuait aux gens ou si on apurait la dette. Jospin avait fait le choix d'apurer la dette. Donc cette question de la dette, je crois qu'un gouvernement socialiste de gauche le réglera. On ne le réglera pas forcément ni facilement, ni sans effort, ni sans difficulté, mais et en 5 ans, ça sera dur. En 5 ans, ça sera dur. J'aurais bien aimé parler de la couche pour sous X et de la gestation pour autrui, mais j'aurais pas le droit, je pense.
Mais aussi, vous avez tous les droits.
Il reste 5 minutes
pour le faire. Hein. Alors, bien. Donc,
On va faire une cinquième édition
non. Pourquoi pas, mais alors la saison prochaine, peut-être, hein, on vous réinvitera. Peut-être.
On peut peut-être en parler maintenant.
Oui, tout à fait. Parce que là, sur les questions économiques, on n'en fera pas le tour de toute façon. Mais oui. Alors, on vous donne une carte blanche. S'il y a un thème qui n'a pas été traité, que vous souhaitez êtes et que vous souhaitez vous exprimer là-dessus, il y a aucun souci. Vous avez 5 minutes pour le faire maintenant. Et on a le droit d'intervenir.
Oui,
super. Mais sinon, c'est pas drôle. Oui, moi, je suis. C'est pas parce qu'une loi est ancienne qu'elle est obsolète. Mm-hmm. Et l'accouchement sous X en France, il a été décidé à la fin du 19e, et c'était une protection des femmes, certes à l'origine de la grande bourgeoisie française, hein, et qui protégeait leurs filles. Mais au bout du compte, elle libère aussi les femmes de leur propre corps et de cette étrangeté qui pousse en elles et dont elles vont se retrouver responsables. Et l'accouchement sous X dit, il y a d'autres personnes qui peuvent être responsables pour vous de cet enfant qui va naître et c'est à vous d'en décider.
Et super, si vous voulez parler de la GPA, je vous informe tout de suite que ce que vous aviez dit à ce propos-là a été diffusé le mois où on a diffusé les sons sur le...
mais je ne savais pas que vous l'aviez...
C'est vrai.
Je ne savais pas que vous l'aviez enregistré.
Il y a un son qui s'appelait La petite histoire de l'accouchement sous X et on avait parlé déjà du 19e des...
Ah pardon.
On en avait déjà parlé. Vous avez...
D'accord. On l'a diffusé sur le mois où on a parlé de l'événement.
Je vous remercie.
Avec plaisir.
Combien il nous reste, Tao?
Et puis il y avait la gestation pour autrui.
Trois minutes pour la GPA.
Moi, je suis profondément contre. Et parce que je pense que je peux comprendre que pour un homosexuel ou un couple homosexuel masculin, ça soit
ou un couple hétérosexuel stérile.
Ou un couple hétérosexuel stérile, mais moi je suis contre. Je suis contre et ça ne me dérange pas que la France soit un pays différent. Différent de l'Amérique où des jeunes filles vendent leur corps et pour produire un enfant qu'elles donnent à quelqu'un d'autre en toute légalité.
Et ce qui pose problème, c'est justement le risque de marchandisation du corps qu'il peut y avoir derrière.
Oui, et puis le risque pour la femme aussi, parce qu'une grossesse et un accouchement ne sont absolument pas des situations. C'est certes naturel. Mais il y a quand même un facteur de risque médical qui n'est pas anodin, qui n'est pas forcément la mort, mais qui a aussi été la mort et qui peut éventuellement l'être. Mais il y a aussi des modifications biologiques dans le corps, biologiques, morphologiques, qui auront un impact pour la femme. Je rappelle que seulement 10% des femmes accouchent quasiment sans douleur et sans difficulté. Et que pour l'immense majorité, c'est avec douleur. Et que la péridurale n'est qu'une un aménagement confortable, mais c'est quand même une réalité biologique très forte. Et de faire croire que le corps des femmes et le corps des hommes en matière de gestation, c'est la même chose, honnêtement, non. Voilà.
Mais est-ce que vous croyez que l'interdiction va régler tous ces problèmes
Ça ne réglera rien.
Ben voilà.
C'est un état de fait. Mais je ne pense pas que tout doit être réglé sur Terre. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas réglables. Il faut l'admettre. Mmh. Et ça n'est pas que laisser à la liberté de chacune des femmes. La société a aussi son mot à dire là-dessus. Et même si une autre fois, dans une autre émission, on a dit que... Il y a quatre émissions. On a dit que... enfin, aujourd'hui, le corps des femmes leur appartenait. Et bien, il doit leur appartenir jusque-là. Et ça n'est pas qu'une une question de choix, que la société doit aussi protéger la femme contre elle-même. Parce que certaines femmes sont faibles.
Pour moi, c'est une vision qui a un relent de patriarcat, malheureusement. Et en fait, on retrouve exactement les mêmes arguments sur lesquels on s'est affronté sur la prostitution.
Nous sommes donc en divergence, ce qui me convient parfaitement.
Et vous allez le rester, là, je pense.
Je vais le rester.
On va se dire au revoir. Les deux,
vous allez le rester. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Ouais. Et depuis 20 ans, ce n'est pas une réflexion récente. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Et j'ai accouché de 3 garçons. Aucun accouchement n'a été le même, ni dans la souffrance, ni dans la douleur. J'ai donc 3 grossesses. Aucune grossesse n'a été la même. Et ça n'est jamais anodin. C'est anodin pour une minorité de femmes.
On vous remercie, Anne-Yvonne.
Non, c'est merci moi, beaucoup. Ce fut un plaisir. Et vous avez beaucoup. Une liberté qui me ravit.
Tant mieux. On va essayer de la préserver, alors. À bientôt, peut-être.
Merci et à votre gouverne.
Oh, tant que ça.